Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, en partenariat avec l'École Navale, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Nicolas, donc bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Bah de rien, alors vous êtes marin, mais vous êtes un marin un peu particulier, vous êtes un marin de l'aéronavale. Et je crois que vous allez donc nous raconter... Alors, sur quoi est-ce que vous voliez d'abord? Dites-nous.
Oui, donc en effet, je suis marin du ciel, comme on dit. Donc, un pilote de l'aéronautique navale qui vole sur avion de patrouille maritime, Atlantique 2. Et je suis actuellement directeur de l'école d'application des officiers de marine. Donc, ce qui me donne la chance à la fois d'avoir beaucoup volé et puis aujourd'hui de naviguer. Donc, un marin pleinement épanoui et complet.
Très bien. Alors, l'histoire que vous allez... Le souvenir que vous allez nous raconter, il date de quand?
Alors, ce souvenir commence à être un petit peu ancien, c'est 2011, c'est l'opération Harmattan, dans laquelle les Atlantiques 2 ont eu un rôle déterminant, que ce soit
Donc, l'opération Harmattan, on va tout de suite rappeler, c'est évidemment l'intervention de la coalition occidentale, disons, en Libye, pour désarmer, neutraliser l'armée conventionnelle libyenne, donc du général Kadhafi. Et alors, justement, dites-nous, quel rôle ont eu les Atlantiques 2 dans cette tâche, disons?
Alors justement, c'est l'avantage de cet avion polyvalent, c'est que cet avion a eu plusieurs missions et plusieurs rôles. Dans un premier temps, un rôle dans son rôle principal, au-dessus de l'eau, on va dire, aider les bâtiments de la coalition, faire la surveillance maritime et puis donner du renseignement. Et ensuite,
on va rappeler, donc l'Atlantique 2, c'est un des deux avions de la patrouille maritime, mais la patrouille maritime, à la base, c'est pour... C'était pour trouver des sous-marins, et puis en fait, vu que c'est des avions qui sont bien faits, qui marchent bien, on s'en sert pour faire plein d'autres choses. Donc en l'occurrence, là, pour quoi? Pour localiser les navires libyens, c'est ça?
Oui, c'est avant tout pour assurer la sécurité exactement des bâtiments de la coalition qui sont devant les côtes. Donc détecter les bâtiments libyens, détecter également les passeurs d'armes, détecter des mines qui peuvent être déposées et qui entravent la circulation.
Donc voilà. La composante, disons, navale de l'armée du général Kadhafi était importante?
Alors, il y avait quand même un certain nombre de bâtiments, en effet, qui patrouillaient. Et surtout, il y avait beaucoup de trafic qui était fait entre les différents points de la côte. Parce que forcément, ils étaient moins surveillés en mer.
Oui, rappelons que le territoire libyen a cette particularité d'être très intensément peuplé, mais à peu près uniquement sur la bande côtière, parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de désert. Donc, en quelque sorte, pour faire c'était plus simple de passer en cabotage par la mer que de prendre les routes du littoral.
Oui, exactement. Donc, il y avait une forte surveillance du trafic maritime. Et puis, à chaque fois que vous approchez des côtes avec des bâtiments de la coalition, il faut forcément assurer cette sécurité. Et donc, le rôle prédominant de l'Atlantique 2, même si, comme vous le disiez, il a été dessiné et imaginé pour faire la lutte contre les sous-marins, il a un certain nombre de capteurs, que ce soit optiques ou radars, qui permettent de faire cette détection et donc de donner du préavis et de l'information au bâtiment de la coalition.
Et alors, ça s'est passé comment ?
Alors déjà, c'est une belle expérience humaine parce que le temps de formation sur Atlantique 2 est long. Donc on sortait d'école avec mon équipage, c'était ma première réelle mission opérationnelle. Donc cette petite adrénaline et puis ce stress de se retrouver sur un théâtre d'opérations complexe, avec beaucoup de temps de préparation, beaucoup de questions, puisqu'on allait se battre face à une armée qui était quand même conséquente à ce moment-là et puis qui avait des équipements militaires, matériels importants. Et donc, on a un avion qui est vulnérable parce que dans notre jargon, on appelle ça un slow mover, comme son nom l'indique, un avion qui est vulnérable. Et donc, il y avait toute cette préparation, cette gestion.
Oui, mais alors, parce que disons-le, c'est-à-dire, Kadhafi avait acheté pendant des années des munitions et des armes à beaucoup de monde, notamment les Russes à une certaine époque, mais pas seulement. Et donc, qu'est-ce qu'il avait contre... Enfin, il y avait des...
formulons-le différemment, vous étiez vulnérable à quoi en Atlantique 2? Il avait des missiles solaires, il avait des trucs comme
oui,
ça.
Oui, alors tout à fait. C'est pour ça que dans un premier temps, et c'est pour ça que je vais vous raconter plusieurs missions, dans un premier temps, nous étions vulnérables à tout ce qu'il avait comme système d'armement solaire. Et donc, il a fallu attendre des premières frappes, notamment, vous vous souvenez sans doute, hein, cette frappe massive de Tomahawk qui avait pour objectif de détruire des centres de commandement également.
Non, des Tomahawk, c'est des missiles.
Des missiles de croisière qui ont été tirés notamment par des sous-marins américains, qui avaient cet objectif de détruire toutes les menaces qui pouvaient peser notamment sur les moyens aériens qui allaient ensuite survoler la Libye.
Donc l'idée c'était de détruire les batteries solaires qui pouvaient taper des avions comme l'Atlantique. Et ensuite, vous aviez donc en quelque sorte le champ libre ?
Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de détruire déjà les moyens de détection, tout ce qui est radar, centre de contrôle, ensuite l'armement, pour que nous puissions agir de manière sécuritaire, dans des conditions sécuritaires, satisfaisantes.
Et donc, vous étiez les maîtres des airs en Libye, ou est-ce que... C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des risques, quand même, mine de rien, qu'ils aient un truc caché que vous ne connaissiez pas ? Et ensuite, est-ce que même s'ils avaient, même avec leurs armements qui n'étaient pas forcément adéquats, est-ce qu'ils essayaient quand même de...
Alors les risques, oui, ils existent toujours. Je vais vous raconter cette anecdote. La première fois qu'on a franchi entre guillemets la franche côtière là, au-dessus de la ville de Brega, il y avait encore des spots lumineux de la DCA, hein, celle qu'on imagine dans les films qu'on voit. Et donc
quand le spot lumineux, aérien, quoi.
Voilà. Et puis avec le gros spot et quand la lumière du spot rentre dans votre cockpit, vous dites, est-ce que cette lumière va me lâcher? Ou à l'inverse, est-ce que derrière, il y a un servant d'armes qui va me tirer dessus? Donc c'est ce stress, hein, cette gestion.
C'est-à-dire vraiment, ils ont quasiment un spot de Batman quoi, qui pointe vers
exactement,
le ciel et vous éclaire d'un coup. Quoi.
C'est ça, c'est le bon exemple, c'est le spot de Batman, exactement. Donc heureusement...
Et ça, c'est pour guider leur tir donc, de canon anti-aérien, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
Et du coup, vous aviez quand même un peu peur que ça vous arrive dessus?
Alors voilà, au début, il y a toujours cette peur. Hein, comme je vous le disais, c'est un avion qui est vulnérable. Heureusement, on a un service de renseignement qui est compétent, qui nous permet de bien analyser la menace. Et puis, on a aussi les moyens de voler au-dessus de la majorité des menaces. Et donc, c'est bien en volant haut que ça nous permettait de s'affranchir de cette menace et de voler de manière un peu plus sereine.
Alors pourquoi? Juste parce qu'ils ne sont pas assez précis pour... parce que c'est des missiles qui ne sont pas guidés? Ou parce que c'est des projectiles qui ont un plafond et qui du coup peuvent pas monter au-delà d'une certaine...
Alors c'est essentiellement lié au plafond. Voilà, en connaissant les systèmes d'armement principaux qui leur restaient à disposition, on était capable d'analyser des plafonds et on s'assure d'aller dans des zones où on peut voler au-dessus de ces plafonds.
Mais du coup ça fait quoi? Ça fait que vous avez un missile qui part vers vous et vous le voyez arriver à une certaine altitude, faire demi-tour vers le sol?
Alors c'est extrêmement difficile, mais oui, c'est un petit peu ce qu'on imagine. Hein. Il y a plusieurs fois, mais le Stabor, alors dans l'Atlantique 2, pour expliquer, il y a du personnel qui est en charge de regarder à l'extérieur et qui annonce des départs missiles. Alors c'est difficile de savoir si c'est un missile qui est dirigé contre vous ou si c'est une roquette qui monte à son plafond, mais vous la voyez exploser juste en dessous de vous. Et donc à ce moment-là, ça augmente le niveau de stress et d'adrénaline dans l'avion.
Vous voyez des roquettes qui éclatent partout en dessous de vous et vous continuez votre mission de patrouille maritime.
Voilà, alors partout, pas partout heureusement, mais à certains endroits on voyait des roquettes. C'est extrêmement difficile de savoir si cette roquette elle est contre vous, puisque on imagine qu'eux aussi savent bien qu'ils ne vont pas pouvoir nous atteindre, ou si on est tiré à l'encontre d'autres choses hein, qui se passent au sol, contre d'autres forces au sol. Mais en tout cas, on voit un certain nombre d'explosions en dessous de nous. Alors ça, ce n'est pas au-dessus de l'eau, hein, c'est essentiellement dans la deuxième partie de la mission quand on est au-dessus de la Terre, parce qu'au-dessus de l'eau, on n'avait pas cette menace qui arrivait directement sur nous.
Et du coup, votre quotidien, alors je ne sais pas combien de temps vous êtes resté en Libye, mais ça ressemblait à quoi enfin je ne sais pas, vous partiez 2 heures, 8 heures, 12 heures, et qu'est-ce qu'on vous demandait de faire?
Alors justement, je vais rentrer un petit peu dans le détail de deux missions là, qui sont un petit peu passionnantes pour cet avion. La première mission qui m'a un peu marqué, c'est au mois de mai 2011, dans la nuit du 19 au 20 mai. Puisque la décision a été prise de couler les bateaux de Kadhafi. Et donc, dans le cadre de cette mission, j'avais obtenu un mandat pour voler avec un missile AM-39. Donc c'est un missile anti-navire. C'est le même type que des missiles mer-mer qui embarquent sur l'ensemble des bateaux, mais qui, celui-là, est aéroporté. Et donc ma mission, c'était de me positionner au large du port de Tripoli, de patrouiller. Et j'avais reçu l'autorisation d'engager des bâtiments militaires qui sortiraient du port. Donc mission extrêmement riche et dense. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là...
C'est habituel pour un avion de patrouille maritime de pouvoir couler un navire ?
Alors, cet avion, oui, il est armé. Hein. On dispose de torpilles, on dispose de missiles, on dispose de bombes. Et donc, c'est ce qui en fait son avantage. C'est bien un avion de guerre. Et donc, ça faisait beaucoup d'années que l'avion n'avait pas volé avec ce type d'armement, puisque, en effet, hein, ce n'est pas des missiles qui sont utilisés tous les jours contre des bâtiments militaires. Et donc, c'était un petit peu une première. Il a fallu se réapproprier l'utilisation de l'arme, même si on s'entraîne en permanence. C'est différent de l'utiliser en entraînement ou de l'utiliser en vrai. Alors, c'est des missions qui sont...
Et du coup, vous l'avez tiré, ce missile ou...
Alors non, finalement, nous ne l'avons pas tiré. Je vais vous raconter finalement comment ça s'est passé. Mais c'est quand même une mission longue qui est dense à préparer, déjà intellectuellement. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres, c'est une arme qui est complexe, parce que le vol est long, pour répondre à votre question là, précédente, c'est-à-dire c'est des vols qui font entre 8 et 10 heures, déjà le temps de rejoindre la zone, puisque évidemment on n'était pas basé en Libye, mais on était basé en Sicile, là. Et puis ensuite il y a forcément un temps d'attente. Alors la décision qui a été prise pour couler les bateaux était différente, c'est de les couler dans le port, puisque aucun n'a appareillé, et donc c'est les avions de chasse qui ont tiré des bombes pour couler ces bateaux, mais je peux vous assurer que l'excitation était à son comble, et puis forcément l'adrénaline aussi, puisque cette mission était capitale, parce qu'on pouvait imaginer que si un bateau sortait du port de Tripoli à ce moment-là, les conséquences auraient pu être fâcheuses pour les autres bateaux.
Non, mais donc vous étiez en l'air au moment où les avions de chasse ont coulé les navires dans le port de Tripoli.
Voilà, exactement. J'étais en l'air. Et
vous étiez, au premier rang, quoi.
C'est ça, exactement. Et donc on a notamment filmé, enregistré, puis on s'est assuré ensuite que les bateaux avaient bien été coulés par les bombes qui avaient été larguées.
Ah ouais, ça doit être plaisant de voir l'aviation de chasse en action de si près, ça doit être un truc étonnant, quoi.
Oui, alors on est habitué à travailler avec les avions de chasse, hein, d'une manière générale, on travaille énormément en coopération.
Ouais, enfin, couler toute une flotte dans le port, c'est quand même pas...
Voilà, c'est quand même pas une mission classique.
Ouais. Et alors ensuite, donc une fois qu'ils étaient coulés, quoi. Et vous êtes pour autant resté sur des missions autour de la Libye. Qu'est-ce qu'on vous a donné à faire après ?
Alors voilà, c'est là où je vais vous détailler une deuxième mission. Alors en tout, j'ai fait 3 mandats là-bas. C'était des missions denses, des vols longs, comme je vous l'expliquais. Et donc, on revenait régulièrement sur le territoire. Et donc, lors du deuxième mandat, au mois de juillet, j'ai eu la chance donc, de travailler beaucoup plus avec les avions de chasse encore, au sein de la coalition, que ce soit des avions de la marine, de l'armée de l'air, mais également de pays alliés. Et nous avions la chance d'avoir une délégation pour engager les forces de Kadhafi qui étaient au sol. Et ça veut dire que on pouvait faire engager l'aviation de chasse sans rendre compte directement de nos états-majors si nous étions dans la zone qui nous était assignée et si nous avions la certitude de ne pas nous tromper de cible. Entre guillemets.
Donc ça, c'est l'avantage de la patrouille maritime, c'est-à-dire vous dites il se passe ça au sol, on est sûr que, et du coup l'aviation de chasse peut entrer en action après.
Alors exactement, c'est une machine un peu complexe, mais on a la chance de s'appuyer sur les 15 ou 17 membres d'équipage, sur un nombre de moyens de communication et de détection qui sont importants. Et donc dans ce cadre précis, quand on était sûr d'avoir un véhicule armé, par exemple, on faisait cette identification, une fois qu'on s'assurait que c'était une force pro-Kadhafi, on appelait entre guillemets un avion de chasse et on lui désignait la cible, il pouvait l'engager. Donc ça, c'est une forte responsabilité, de la même manière que ça a posé beaucoup de questions, notamment au sein de l'équipage. Hein, ça a fait beaucoup de réflexions, on va dire, intellectuelles, puisque si le militaire a conscience du risque qu'il encourt pour sa propre vie, notamment quand il va au-dessus d'un territoire... Tout mon équipage n'était pas forcément prêt à s'inclure dans la chaîne décisionnelle qui allait donner la mort au sol. Et donc ça, c'est assez intéressant en termes de préparation et de retour d'expérience.
Vous n'étiez pas habitué à être à ce point-là en cycle court. C'est-à-dire donner du renseignement, que ce soit retraité et ensuite qu'il y a un truc qui se passe, c'est habituel. Par contre, directement pointé et que c'est un effet si immédiat, c'était perturbant.
Exactement. C'est cet effet immédiat qui est perturbant et puis et d'être aussi proche de l'action, hein, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. J'ai en tête le souvenir d'un jeune second maître qui est chargé de faire des photos très précises avec du matériel de haute technologie. Et donc lui, il est capable de désigner dans un premier temps la cible, de s'assurer que c'est bien un moyen militaire ennemi. Et puis, in fine, quand les avions de chasse ont engagé cette cible, c'est lui qui fait également ce qu'on appelle le compte-rendu de tir, qui vérifie que la cible a bien été détruite, et se rend compte personnellement qu'un certain nombre de militaires adverses sont morts, et ça a pu le perturber, parce qu'il ne pensait pas, aussi jeune et à son grade, être inclus directement dans cette chaîne décisionnelle qui allait entraîner la mort.
Ah oui, c'était moralement, c'était compliqué pour lui.
C'était un forcément un petit peu compliqué pour lui, puisque quand il s'était engagé, sans doute, et notamment dans une spécialité à la base d'acousticien, donc de pisteur de sous-marin, il ne se voyait pas forcément dans ce rôle immédiatement. Et donc c'est toute cette phase qui est humainement très intéressante sur le rôle du chef, hein, que j'avais, de leur expliquer leur rôle fondamental, mais également le sens de l'engagement qu'ils ont, et avec tout ce qui va avec, derrière cet engagement militaire, que ce soit la crainte dont on a pu parler tout à l'heure, quand on passe dans le faisceau de la DCO, quand on voit des roquettes en dessous de nous, mais également jusqu'à donner la mort quand la mission nous l'ordonne.
Et ça a été géré ? Enfin, je veux dire, donc on a compris, c'était des mandats longs, c'était des missions longues, etc. Et du coup, vous faites beaucoup de... Enfin, c'est passé, ce truc, ce malaise, cette inhabitude. Enfin, alors, formulons-le différemment, on en prend l'habitude de ça ?
On prend jamais vraiment l'habitude. Je pense que, heureusement, ce stress fait toujours partie de la mission, cette adrénaline également, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est aussi plus performant, hein, le jour J dans cette mission. En tout cas, ça nous a permis sans doute d'adapter notre entraînement, notre réflexion et également la préparation de l'ensemble des équipages, que ce soit en interne, c'est-à-dire dans les exercices qu'on peut mener pour s'y préparer, mais également en s'appuyant avec l'aide de psychologues, par exemple, en préparation de la mission et puis en post-mission, pour que chaque personne a forcément un lien différent à la mort de par ses propres expériences, de par son vécu. Et donc c'était intéressant de travailler sur ce sujet-là pour être encore plus performant et pas se poser d'éternelles questions le jour J. Il faut imaginer que ça, tout va très très vite. Hein. Avec les moyens modernes, vous êtes capable d'engager plusieurs cibles en même temps dans des laps de temps très courts. Au cours d'une même mission, c'était pas rare d'engager 6, 8 ou 9 cibles. Donc il fallait pouvoir avoir l'esprit complètement disponible pour mener ce type de mission.
Et ça fait bizarre de rentrer en Sicile. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire un avion de chasse, s'il est sur le porte-avions, il n'est pas très loin. Enfin, c'est-à-dire l'idée que vous rentrez sur une base aérienne en Sicile, que c'est pas tout à fait, mais pas de l'autre côté de la Méditerranée, mais un peu quand même, sur un truc qui vit sur un territoire qui vit pas du tout la même chose.
Oui, tout à fait, c'est pas forcément simple à gérer. On était colocalisé avec les avions de l'armée de l'air, hein, donc que ce soit en Sicile et puis ensuite à la sud, quand l'ensemble du détachement déménageait. Cependant, on a au moins... Pardon ?
C'est où, la sud ?
La sud en Crète. Et en fait, ça a au moins cet avantage de faire une coupure par rapport au monde dans lequel on vit. Je pense notamment aux AWACS, des avions radars là, qui contrôlaient notre intervention. Eux décollaient de chez eux, hein, du centre de la France, allaient faire leur mission et le soir rentraient chez eux, voyez leur famille. Donc pour eux, je pense que c'est encore un petit peu plus difficile. Même si on vit dans un cadre, comme vous l'évoquiez, hein, aseptisé, plus simple, ça permet sans doute de mieux se reposer, d'être un petit peu plus loin de la menace, mais le fait de ne pas rentrer chez nous quand même nous permettait de rester dans la mission. Et ça, c'est un élément qui est important, hein. C'est un petit peu la comparaison qu'on peut faire avec certains pilotes de drones qui sont à des milliers de kilomètres de l'action. Je pense que c'est dur d'être dans l'action, nous arrivions à rester dans l'action, de par proximité et le mélange avec l'armée de l'air avec qui nous étions logés.
Rappelons par ailleurs que ça arrive à des pilotes de drones, pas les pilotes de drones français, puisque les pilotes de drones français sont toujours sur théâtre, en tout cas pour l'instant.
Exactement.
Et donc c'est une mission qui était quand même pas tout à fait banale pour la patrouille maritime, ce que vous nous décrivez. On sait que ça a été pas mal utilisé depuis, alors au moment de l'opération Armatan, mais on sait que la patrouille maritime est aussi pas mal utilisée au Mali, dans le cadre de Barkhane. Bon, parce que c'est, on le disait au début, mais c'est des avions qui servent très bien à tout un tas de missions différentes. Vous l'avez dit aussi, c'est des avions qui ont été dessinés pour traquer des sous-marins. Vous qui avez vu ça, c'est-à-dire vous avez l'impression que le travail, les fonctions, la mission de la patrouille maritime évolue au fur et à mesure qu'on les utilise de plus en plus en complémentarité avec la Terre. C'est-à-dire, est-ce que vous traquez encore si souvent que ça des sous-marins ou...
Alors oui, tout d'abord, c'est pas une mission nouvelle. Hein. L'Atlantique 2, au-dessus du désert, c'était déjà le cas en Mauritanie dans les années 80, c'était le cas au Tchad dans les années 90, qui travaillait avec des Jaguars. Donc c'est pas une mission nouvelle. Cette utilisation de l'Atlantique 2 comme un PC volant, et s'est développée petit à petit. Il y a eu une accélération autour des années 2008-2010, en effet, notamment avec l'intégration de la bombe guidée laser GBU-12, la même qui est sur les chasseurs, et puis un moyen de vision optronique qui était performant là, et donc ça nous a mis encore plus sur le devant de la scène. mais on est juste venu combler un vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la place d'un autre moyen, on a utilisé le moyen militaire le plus adapté pour la mission. Et en parallèle, la recrudescence de l'activité sous-marine dans le monde, et en particulier au niveau des Russes, hein, dans le nord de l'Atlantique, fait que cet avion, il est employé aussi énormément en mission de lutte sous la mer, avec quelques missions emblématiques, hein, de pistage de sous-marins russes, que ce soit en Méditerranée, en Atlantique, de travail avec nos amis américains, canadiens, qui ont également des moyens aéronautiques performants dans le domaine. Et donc c'est bien une mission complémentaire. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, les équipages, finalement, passent pas plus d'un tiers au-dessus du sable, entre guillemets, comme on dit, hein, dans ce type de mission. Et ça ne nous a pas éloigné de notre mission principale et prioritaire, qui est la lutte contre les sous-marins.
Très bien. Merci beaucoup, commandant Nicolas.
Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com